La base du désir est incestueuse et donc pédophilique dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on apprend le désir, l'enfant apprend à désirer en désirant son père et sa mère. Et parce que son père et sa mère ont envers lui tout un tas de comportements, de gestes, de regards, de paroles qui sont porteurs globalement du désir.
C'est-à-dire qu'on a tous, on est tous dans le pulsionnel,
voilà,
dans nos relations avec les enfants.
Voilà.
C'est une question de dosage.
C'est une question d'élaboration, d'orientation et donc de dosage, oui. Et de cadrage, de contenance. Ce sont tous ces éléments-là qui font que nous allons transformer ce qui était de la matière brute, mais vitale, pulsionnelle, en quelque chose qui va se vivre de bonne manière, civilisée.
Le fantasme de l'adulte qui prend possession du corps de l'enfant ne correspond pas du tout, quoi qu'ils en disent, au fantasme de l'enfant. C'est comme si le fantasme d'être en contact avec un si bel enfant venait faire renaître quelque chose, réparer quelque chose, et en même temps, l'incongruité de la différence d'âge entre l'enfant et l'adulte ne fonctionne pas pour dire « il y a un interdit, ça se peut pas, ça se peut pas hein ». Et donc c'est cet interdit qui ne fonctionne pas parce que la blessure reste ouverte, hein, la blessure de l'enfance reste ouverte.
Est-ce que c'est problématique d'avoir des fantasmes pédophiles ?
C'est problématique avant tout pour la personne, je crois. Précisément pour la représentation qu'elle se fait d'elle-même au moment où elle éprouve ces fantasmes-là et toutes les questions que ça va générer chez elle. Donc c'est pas problématique socialement parlant, c'est pas problématique pour les enfants, à condition bien sûr que la personne ait conscience que de cette distinction justement entre fantasme et passage à l'acte. Mais pour la personne qui le vit, oui, ça peut être extrêmement perturbant. De l'intérêt d'avoir des référents autour, des thérapeutes, des personnes qui puissent prendre en charge, qui puissent entendre, ne serait-ce que cela.
C'est quelque chose qui est parfois extrêmement difficile. Moi, j'ai rencontré des gens qui refusaient de sortir, qui ne sortaient plus de chez eux, rien que parce qu'ils se sentaient pris par cette attirance quand ils rencontraient des enfants. Certains que les gens le repéraient et le voyaient comme ça, enfin ça peut rendre très paranoïaque quoi. Hein. Donc c'est parfois des grandes souffrances dans un grand isolement.
Est-ce que ça doit être perturbant ? Est-ce que c'est positif le fait que ce soit perturbant d'avoir ces fantasmes ?
Oui, je crois que c'est positif parce que ça signe le fait qu'on ressent la limite justement, qu'on se dit que ça ne doit pas exister. Donc c'est un signal d'alerte, il faut l'entendre comme ça. C'est un signal qui s'allume chez les personnes. Les personnes qui ne ressentent pas de problème à ça, parfois on dit qu'ils ont des distorsions cognitives, c'est-à-dire qu'ils ont une idée de la réalité qui est distordue, qui ne correspond pas à la réalité commune, qui vont, par exemple, se dire que oui, oui, bien sûr, les enfants ont besoin d'une sexualité, que quand un enfant me sourit, c'est qu'a priori, il me séduit, etc. Ça, c'est des distorsions cognitives. Et ben, eux, ils vont pas avoir cette petite alerte qui va s'allumer en eux au moment où ils auront des fantasmes pédophiles. Et là, c'est un peu plus inquiétant.
Le problème d'avoir des fantasmes pédophiles, c'est de ne pas savoir quoi en faire. C'est-à-dire que si je commence à m'apercevoir que j'ai des fantasmes pédophiles qui me pousseraient assez naturellement à un passage à l'acte, il y a quelque chose dans ma conscience d'humain adulte qui doit se dire « ça va pas, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?»
Si vous développez ce fantasme et que ça devient par exemple la source de votre excitation lors d'une pratique masturbatoire, vous vous mettez en danger de pouvoir le vivre un jour, et donc de passer à l'acte, et de fait, d'une part, de faire des victimes, ou tout simplement de vous retrouver avec des ennuis judiciaires si vous utilisez des médias pédopornographiques, par exemple. Donc je pense que toute personne qui se rencontre, qui réagit positivement à une excitation sexuelle, par exemple un enseignant qui découvre quand il s'occupe d'enfants qu'il a une érection, ou une institutrice qui utilise dans ses pratiques masturbatoires, les enfants dont elle s'occupe la journée, elle est en situation de risque de passer à l'acte. Et donc, il faut qu'elle puisse consulter de façon préventive pour justement arriver à gérer ce type de fantaisie.
La personne n'est pas responsable de ses fantasmes, elle est responsable de ce qu'elle en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a ce type de fantasme, elle doit s'interroger sur ce que ça signifie dans son histoire, dans son évolution, et avoir le courage, l'éthique, de s'en occuper.
Un fantasme, et j'aime bien ce mot, ça s'apprivoise. La sexualité humaine, pour les pédophiles comme pour les autres, elle s'apprivoise.
Je crois que c'est très important que les gens puissent se dire, il y a quelqu'un qui est un humain comme moi et qui est en mesure de m'aider. Et de m'aider à dépasser ça pour éviter le passage à l'acte et pour protéger des enfants.
Le conseil que je donne à beaucoup de pédophiles, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui alimente les fantasmes. Voilà, par exemple, la pédopornographie, les images sur des magazines d'enfants, les pensées érotisées dehors lorsque ils croisent un enfant qui correspond à leurs préférences. Donc, ne pas l'érotiser. Donc, le regarder comme un enfant, pour ne pas alimenter les fantasmes après quand il revient chez lui. On peut réduire les fantasmes avec un soutien, avec une écoute et avec une volonté. Il faut juste savoir gérer ça.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.